5. Mais pour le moment, c'est donc la déprime. Côté devise, l'euro est toujours très ferme. Il est à 1,1491 et regagne 0,34% à 128 yens 75. En ce qui concerne les marchés de l'or à Paris, le lingot a perdu 200 euros à 10 650. Le Napoléon a reculé d'1,40 € à 71,10. Et à Londres, l'once de métal fin abandonne 6,60 à 384,10. Je vous rappelle que le CAC 40 est en forte baisse d'1,22% à 3191 points. C'était Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
14h03 sur France Inter, comme promis, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, les fantômes.
L'irruption des fantômes est celle des puissances que l'homme redoute et sur lesquelles il ne se sent pas de prise. Roger Caillois.
Histoire. Aussi longtemps que les scientifiques auront encore des choses à découvrir, ils laisseront à notre imagination le soin d'expliquer l'inexplicable. Le monstre du Loch Ness, l'abominable homme des neiges, les ovnis, le triangle des Bermudes, les trous noirs, et ceux plus insondables encore de la sécurité sociale, mais aussi ces apparitions qui nous hantent depuis la nuit des temps, les fantômes. Pourvu d'ailleurs qu'on ne découvre jamais qu'ils n'existent pas, la littérature fantastique et le cinéma n'auraient plus grand-chose à se mettre sous la dent pour offrir aux enfants et à leurs parents de quoi meubler leurs cauchemars.
Alors, faut vraiment faire ça?
Eh, hey, tu veux que tout le monde nous traite de trouillards à l'école?
Et alors, je mourrai pas?
Quel fou ça!
Allez, viens!
Oh la vache! J'y vois rien, moi et toi. Non, je vois rien du tout.
Dominique Lormier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste du bouddhisme, de la Deuxième Guerre mondiale, et puis alors de l'histoire du sud-ouest de la France, et c'est peut-être pour cette raison que vous avez écrit un livre sur les fantômes, parce que j'ai appris en vous lisant que le sud-ouest, c'était avec l'Angleterre, une terre de prédilection pour les fantômes, une région pleine de maisons hantées et de châteaux hantés.
Bah, c'est une région avec notamment le Périgord, mais également le Pays Basque, qui est totalement ancré dans le mystère religieux, le mystère de l'irrationnel. Et on a eu un certain nombre d'histoires célèbres qui se sont déroulées justement dans cette terre.
Alors vous citez la vallée d'Ossau, vous citez la ville de Foix avec Gaston Phébus, je crois qu'il se faisait assister par un fantôme qui lui permettait d'annoncer des événements avant qu'ils se produisent.
Le chroniqueur Jean Froissart au XIIIe siècle, et peut-être une des plus vieilles histoires de fantômes qui a été écrite à l'époque, et dont nous avons avec, je dirais, beaucoup de précision le récit.
Oui. C'était quoi? C'était un fantôme, donc, qui s'appelait Horton, je crois.
Alors, c'était Horton, le farfadet, qui était en quelque sorte le messager d'un des grands seigneurs de Coaraz, et qui était un seigneur du Béarn, et grâce à lui, il parvenait à avoir des renseignements, qui c'était en quelque sorte un agent secret avant la lettre.
Alors, vous racontez aussi beaucoup d'autres histoires. Vous parlez dans la région de Bordeaux d'un château de Langoiran, hein, où aurait vécu une femme qui aurait hanté ce château depuis le XIVe siècle. Alors, vous mettez aussi, parce que votre livre est surtout un récit d'histoire d'apparition en général, vous mettez dans le même livre l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes. Est-ce que vous pouvez mélanger, est-ce que vous pouvez considérer que cette apparition, c'est une histoire de fantôme?
Alors, c'est un livre à l'origine qui s'appelait le livre des apparitions. On a voulu mettre fait plutôt le mot fantôme qui parle beaucoup plus au public et au lecteur. Néanmoins, au tout début du livre, je mets bien la distinction qu'il faut faire entre les apparitions maléfiques et les apparitions d'essence divine comme la Sainte Vierge.
Oui, vous faites un amalgame quand même.
Non, je fais quand même une distinction et en plus c'est bien séparé au niveau des chapitres. Donc déjà dans l'introduction, la distinction est faite et elle est faite à l'intérieur même de la construction du livre.
Parce que la religion n'aime pas beaucoup les histoires de fantômes.
Bien entendu, parce que on les considère un peu comme des entités maléfiques, alors bien entendu que la Sainte Vierge, elle, est d'essence divine.
Alors la grotte de Massabielle à Lourdes n'a pas grand-chose à voir avec l'idée que l'on peut se faire ou que le cinéma se fait des fantômes. On écoute un extrait de l'excellent film d'Alejandro Amenábar, Les Autres, avec Nicole Kidman, une châtelaine de l'île de Jersey, pendant la guerre.
Oh, j'ai senti comme une présence dedans. Mais ce n'était pas humain. Il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose de diabolique.
Madame.
Une présence qui rôde. Une âme en peine. Je sais que vous n'y croyez pas. Je sais que ça paraît invraisemblable.
Ça n'est pas invraisemblable. J'ai toujours cru à ces choses-là, madame. C'est difficile de les expliquer. Mais je sais bien qu'elles existent. Nous avons tous entendu des histoires d'outre-tombe. Ici ou là. Et je crois, enfin il me semble, que le monde de l'au-delà rencontre parfois le monde des vivants.
Mais c'est impossible. Le Seigneur ne laisserait jamais faire une telle aberration. Les vivants et les morts ne se rencontreront qu'au jugement dernier. C'est ce qu'il dit dans la Bible.
Madame, il n'y a pas toujours une explication pour chaque chose.
Et oui, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas tout expliquer, Dominique Lormier, qu'on a inventé les fantômes.
Les fantômes ne sont pas, je dirais, une imagination de l'esprit humain, puisque nous avons des preuves, même liées à des enquêtes scientifiques, comme par exemple l'affaire Romier, puisque ça a même été une enquête menée par la police, qui nous pousse à nous poser énormément de questions, puisqu'il s'agit d'un jeune homme qui rencontre dans la région parisienne un monsieur relativement âgé et qui lui propose de l'inviter à un concert de musique classique dans son appartement.
C'était en 1925.
Voilà, c'était après la Première Guerre mondiale. Et ce jeune homme qui est étudiant en médecine, très rationaliste, suit ce monsieur parce qu'il a lui-même une passion pour la musique classique. Il est invité donc le soir même. Et il rentre dans cet appartement parisien et à ce moment-là, il rencontre toute la famille. Et il assiste effectivement à un concert avec un cocktail entouré de gens tout à fait sympathiques. En quittant l'appartement, il oublie quelque chose et il revient le lendemain matin pour essayer de récupérer la chose qu'il a oubliée justement dans cet appartement et il découvre finalement un appartement qui est totalement inhabité depuis de nombreuses années, où il n'y a plus rien. Et il demande même au concierge de lui donner la clé pour ouvrir parce que l'appartement est inoccupé depuis des années. Et à ce moment-là, effectivement, on peut dire, comme l'a dit Einstein, qu'il a trébuché dans le temps.
Oui, c'est curieux quand même que Einstein se soit intéressé à cette histoire-là parce qu'ensuite... Il se rend compte que les gens qu'il voit, qu'il avait vus à l'époque très jeune, sont encore vivants, mais beaucoup plus vieux.
Oui.
Et alors, il y a cette formule d'Einstein qui m'a troublé en vous lisant. D'abord, je ne savais pas qu'Einstein s'était intéressé à l'histoire de fantômes. Hein, ce jeune homme, dit-il, a trébuché dans le temps, justement.
Einstein s'est intéressé de façon à la physique quantique. La physique quantique nous amène dans des domaines qui dépassent la science purement matérialiste. Il s'est intéressé également énormément au bouddhisme, qui est une science de l'esprit et qui justement reconnaît l'existence des fantômes.
Alors bon, ils apparaissent aussi, dites-vous, d'après les théories d'Einstein, les fantômes apparaissent par des espèces de brèches faites dans le temps.
Oui, c'est des brèches qui sont faites dans le temps, c'est-à-dire au niveau de la science quantique, le mot temps, le mot espace-temps n'existe plus. Donc, on peut effectivement avoir ce genre de phénomènes qui peuvent se manifester à différentes occasions lorsqu'il y a ces phénomènes paranormaux.
Alors, vous citez aussi l'histoire d'une équipe de radio, de télévision.
Notamment de France Inter, de TF1, qui sont allés dans un château dans l'Allier où il s'est passé effectivement des phénomènes avec des gens qui, comme vous, comme moi, étaient extrêmement rationalistes et assez hermétiques à ce genre d'histoire. dans un château où une jeune femme avait été assassinée il y a plus de 300 ans. Et il s'est effectivement passé des phénomènes totalement inexplicables pour un cerveau, je dirais, scientifique et totalement rationaliste.
On écoute justement ce reportage étonnant de cette émission de France Inter, Le Boulevard de l'Étrange, une équipe donc de TF1, de Télé 7 jours, un photographe et un preneur de son de Radio France, parti enregistrer et photographier un fantôme en 1984.
Ceci est un document exceptionnel, enregistré la nuit du 8 au 9 août 1984 dans la salle des pendus au château de Vos, dans l'Allier.
Vas-y.
Oh oui.
Vous l'avez vu là?
Ah oui. Oh merde. Oh.
Son effectué par la maintenance de Radio France. Fréquence 2 kHz. Niveau croissant. Signal décharge d'un condensateur. Seule hypothèse possible selon les données du constructeur, micro exposé à un taux d'humidité très élevé du type jet de vapeur, le micro aurait dû tomber en panne, ce qui n'est pas le cas. Cause inconnue à ce jour.
Du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage dans toutes les chambres tapis. Il y a des souris sous les lits. Si vous n'en voyez pas, c'est qu'il y a des chats. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage, c'est un vieux château tonton. C'est des deux corbeaux bonbons.
L'on mesure à peu près 180 mètres.
Il est ravissant, mais il y faudrait
des carreaux aux fenêtres.
On s'éclaire à la bougie. On se lave avec l'eau de la pluie.
Ben quand il a pas plu,
ben tant pis. On reste sale entre amis.
C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage.
Dans toutes les chambres d'amis, il y a des souris sous les lits.
Non.
Si vous n'en voyez pas,
vous,
c'est parce qu'il y a des rats.
Ah, des rats.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les fantômes.
C'était Ray Ventura et ses collégiens en 1932, le vieux chapeau. Ils ont des goûts de luxe, hein, les fantômes, Dominique Lormier. Ils se manifestent que dans des châteaux.
Ah bah, ils adorent les milieux aristocratiques, notamment comme la Tour de Londres, où là, on a de nombreux récits de fantômes qui nous ont été transmis par justement les gardiens, les gardes anglais qui étaient chargés de garder la Tour de Londres.
Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de morts, hein, à la Tour de Londres.
Oui, énormément. Donc, généralement, d'ailleurs, les fantômes sont liés aux morts violentes. Hein. Ce sont souvent des âmes qui n'ont pu atteindre le purgatoire ou le ciel et qui sont dans un état intermédiaire entre notre monde à nous et le monde du ciel. Mmh. Et qui donc peuvent se manifester par des bruits, ce qu'on voit à travers les poltergeists également aussi.
C'est quoi les poltergeists?
Alors, ce sont généralement des esprits frappeurs qui sont liés souvent à des morts violentes et donc qui font bouger des objets, qui tapent. Il y a eu un certain nombre de films américains tirés souvent d'ailleurs de faits divers qui ont traité ce genre de sujet. Alors les fantômes, on les retrouve bien entendu dans les châteaux aussi de toutes les régions.
La Tour de Londres, il faut revenir, parce que quand je disais qu'il y a beaucoup de morts, je pensais évidemment aux nombreuses femmes d'Henri VIII.
Oui,
Anne Boleyn, hein, qui apparaît
de temps en temps à des gardes anglais, et ces gardes s'évanouissent non pas par la beauté de l'apparition, mais bien entendu par la frayeur de l'événement.
Mmh. Alors, on a entendu dans le reportage de tout à l'heure, on a entendu des déclenchements d'appareils photo. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, bon, on peut se dire, les gens qui voient des fantômes sont victimes d'hallucinations, c'est des photos, mais est-ce que ces photos elles-mêmes ne sont pas truquées? Il y a une photo très célèbre, je crois que c'est la veuve de Lincoln.
Alors, c'est des photos qui ont été faites sur des plaques en verre au milieu du 19e siècle, au tout début de la photographie. Le photographe en question qui avait fait ces photos avait été attaqué par la justice. Il y avait eu un procès retentissant et il a été totalement réhabilité. On n'a pas pu prouver qu'il avait truqué justement les photos. Et j'imagine mal qu'à l'époque, on ait la faculté de pouvoir truquer ce genre de documents, alors qu'on était vraiment à l'aube naissance de la photographie.
Il y a même des photos d'ectoplasme, vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?
Oui, alors ce sont des formes que l'on explique dans le spiritisme, c'est-à-dire c'est le fantôme qui prend une forme de la personne défunte.
Alors on peut même parler, on ne fait pas que photographier avec les fantômes, on peut même parler avec eux et provoquer leur apparition au cours de séances ou dites de spiritisme, comme celle-ci à laquelle les journalistes de Radio France, qui n'ont décidément peur de rien, ont assisté pour le magazine Tabou en 1986.
Une fois de plus, Laetitia sera l'antenne de notre action fluidique. Nous allons réveiller les âmes et leur donner la lumière.
Laetitia était chargée ce soir pour la circonstance d'être en quelque sorte l'antenne de toutes ces entités qui sont décédées brutalement. Il y avait une enveloppe qui était posée sur la table. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe ? Eh bien, un ensemble de noms, d'articles de journaux qui correspondent à des morts brutales qui se sont déroulées cette semaine. Et comme ces gens-là sont des gens qui sont restés en définitive près de la matière, ils ont besoin de faire passer leurs angoisses, si vous voulez, leur état, par l'intermédiaire de Laetitia.
Un commentaire sur ce que l'on entend, là, cette séance de spiritisme, Laetitia étant un médium, c'est-à-dire celle qui fait apparaître...
Alors personnellement, j'ai rencontré plusieurs médiums qui arrivaient dans des états de transe à communiquer avec des personnes décédées. J'ai eu le cas un célèbre dans le Vaucluse d'une voyante, Madame Adam, qui est en channeling avec une personne décédée, qui est totalement incapable d'écrire normalement, je dirais, les textes qu'elle écrit, sauf lorsqu'elle est en transe, où là, effectivement, il y a une modification de sa forme d'écriture et qui est totalement inexplicable.
Alors le spiritisme, c'est du spiritisme, hein, l'art de communiquer avec les esprits, était très à la mode au 19e siècle, où beaucoup d'écrivains, et non des moindres, prenaient le spiritisme très au sérieux. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, beaucoup d'écrivains, on le sait, ont fait du fantôme un personnage, hein, de leurs romans, de leurs nouvelles fantastiques, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, ou chez les anglo-saxons, William Blake, Henry James. Mais en France, celui qui s'y est intéressé de plus près est sans nul doute Victor Hugo. En 1853, alors qu'il est en exil à Jersey, ils découvrent le spiritisme qui est alors à la mode. Alors dans leur maison à Jersey, hein, qui a la réputation d'être hantée, les Hugo et leurs amis font des nuits entières tourner et parler les tables. Les esprits s'expriment par des coups. Alors au début réticent, Hugo va rapidement être séduit et entamer de longues discussions avec des morts illustres, hein, c'est le minimum pour lui, entre autres pêle-mêle Jeanne d'Arc, Socrate, Robespierre, Shakespeare, Dante, Mahomet et même Jésus. Alors, des dialogues conservés grâce aux procès-verbaux notés à chaque séance. Par exemple, à la séance du 5 octobre 1853, Victor Hugo demande « Qui es-tu ?» L'esprit répond « Napoléon. Lequel ?» Le grand. Victor Hugo, tu sais que je t'admire. As-tu une communication à nous faire ? Oui. Victor Hugo, parle. Il répond « Au secours, à l'assassin, le fossoyeur Bonaparte ronge le mort Napoléon. » Et Victor Hugo, qui n'en rate pas une, « Que penses-tu de mon livre Napoléon le Petit ?» Et l'esprit répond « Une immense vérité, un baptême pour le traître. » Alors, des inconnus aussi viennent aussi rendre visite à Hugo par le biais des tables, mais aussi par des apparitions, à la séance du 23 mars 1853. « Qui es-tu ? » « Je suis la Dame Blanche, » répond l'esprit. « Et si nous allions dans la rue, te verrions-nous ? » Oui. Cette nuit ? Oui. À quelle heure ? 3 heures. Alors Victor Hugo notera le lendemain matin ceci. Je suis monté me coucher hier soir à 11h30. J'étais dans un demi-sommeil depuis un temps assez long quand un coup de sonnette m'a brusquement réveillé. C'était la sonnette de la porte. Alors je me suis dit, s'il était 3 heures par hasard. J'ai combattu un moment cette idée, puis j'ai regardé ma montre. L'aiguille marquait 3h05. J'ai regardé dehors pour voir si je n'apercevrais rien. La terrasse était déserte. Le matin, j'ai raconté la chose en déjeunant. Personne autre que moi n'avait entendu le coup de sonnette. Alors, visiblement ému, Victor Hugo dédiera un poème à cette dame blanche. « Esprit mystérieux qui le doigt sur la bouche passe, est-ce toi qui heurtais l'autre nuit à ma porte pendant que je ne dormais pas ?
C'est donc vers moi que vient lentement ta lumière. Réponds-moi, toi qui luis et marches sous les branches, comme un souffle de clarté.
Étonnant, hein, ce texte de Victor Hugo, Dominique Lormier.
Ah ben, c'est à la fois un texte très littéraire et qui, évidemment, nous amène à nous poser un certain nombre de questions sur, justement, les entités de l'au-delà. Néanmoins, je reste assez sceptique en ce qui concerne le domaine du spiritisme, parce qu'on peut se poser la question si ces personnes ne s'illusionnent pas elles-mêmes par des déraillements psychiques qui les amènent à des états de transe où elles pensent réellement être en contact avec une entité, alors qu'en vérité, c'est leurs états de conscience modifiés qui peuvent les amener à ce genre de réaction.
Il n'était pas seul à s'y intéresser. Je crois que il y avait Conan Doyle aussi.
Oh, bah, il y a eu tout le courant, je dirais, des auteurs romantiques et symbolistes du 19e siècle et de la Belle Époque qui se sont passionnés pour le spiritisme. Et il y avait également l'écrivain, par exemple, Gabriel D'Annunzio, qui, lorsqu'il était en France, a assisté à de nombreuses séances de spiritisme, d'autant plus qu'il s'intéressait également à la sorcellerie.
Alors, vous parlez de la Belle Époque, en fait, de la deuxième moitié du 19e siècle, car le spiritisme est quelque chose d'assez récent, hein. Je crois qu'il est né aux États-Unis en 1848 exactement. C'était deux sœurs, je crois, de l'État de New York, qui s'appelaient les sœurs Fox. Hein?
Oui, ensuite, il y a eu quelqu'un de très célèbre, qui a été Alan Kardec, qui lui était français, et qui a été qu'on considère d'ailleurs comme l'un des pères du spiritisme, qui est extrêmement célèbre, notamment au Brésil. Il faut savoir qu'il y a des millions de personnes au Brésil qui croient au spiritisme par l'intermédiaire d'Allan Kardec, qui est considéré comme une des grandes figures pratiquement spirituelles au Brésil, presque autant que Jésus-Christ, ce qui est tout à fait étonnant.
Et je reviens à ces sœurs Fox. Ces sœurs Fox, en fait, étaient donc deux sœurs d'État de New York. Elles étaient empoisonnées, elles étaient assez jeunes, adolescentes, elles étaient empoisonnées par des bruits comme ça dans leur maison près de Rochester. Puis il y en a une qui s'adresse soudain à l'auteur invisible de ces bruits. Il ne peut pas lui répondre par des coups. Alors elles viennent en Europe. Et puis, je crois que Kardec, à l'époque, était très sceptique au début.
Ah oui, Alain Kardec était un esprit totalement rationaliste, ancré dans le scientisme de l'époque, puisqu'il était non seulement médecin, mais également professeur de mathématiques. Et il a même inauguré plusieurs établissements scolaires fondés sur une nouvelle méthode pédagogique pour les enfants.
Qui s'appelait d'ailleurs Kardec, Hippolyte, Léon, Denisard, Rivel. Il préférait le nom d'Alain Kardec, ça fait plus
autre. Alors il s'est intéressé au phénomène de spiritisme parce qu'il a eu de nombreux témoignages à ce moment-là. Et effectivement, il est allé voir sur place et il a assisté à des phénomènes assez troublants.
Cela dit, hein, il faut rappeler que ces deux sœurs, quand elles sont arrivées en France, on appelait ça le spiritualisme. C'est Kardec, hein, je crois, qui a donné le nom de spiritisme à cette méthode. Il y en a une qui a quand même dit que c'était une affabulation, etc. Puis elle s'est rétractée. Enfin bref, on ne sait pas très bien tout ce qui s'est passé. Ce qui est étonnant, c'est que Kardec, j'ai appris que Kardec, qui est mort en 1869, qui a été enterré à Paris, sa tombe au Père Lachaise est une des plus visitées du Père Lachaise.
Ah ben ça n'a rien d'étonnant, parce qu'il y a tout cet aspect mystérieux du personnage qui attire encore aujourd'hui. On voit les phénomènes aujourd'hui du New Age ou d'autres phénomènes spiritualistes entre guillemets, et dans une époque où il y a en quelque sorte une perte de sens, on recherche justement des sensations étranges ou rares dans un monde qui est totalement aujourd'hui matérialiste.
Et vous croyez vraiment qu'on prend ça très au sérieux? Je sais pas, on écoutait au tout début de l'émission un film pour enfants, qui est Casper. Bon, on en rigole plutôt.
Alors vous savez que vous avez quand même des équipes scientifiques américaines aujourd'hui parmi les plus grandes universités aux États-Unis qui ont fondé des équipes et qui ont mené de nombreuses enquêtes qui sont quand même faites avec extrêmement de sérieux. Et qui nous amène à nous poser de nombreuses questions. Il y a eu notamment le docteur Melvin Morse qui s'est intéressé à ces histoires, ainsi que d'autres. Et on a des études extrêmement poussées dans ce domaine-là où on peut effectivement se poser un certain nombre de questions et qui remettent en cause justement un certain nombre de thèses qu'on avait avancées au 19e siècle sur la non-existence des vies antérieures.
Oui, mais enfin, vous, ces questions-là, vous les posez pas. On a l'impression que vous y croyez dur comme fer, ces fantômes.
Ah non, moi, je me base essentiellement sur les faits, c'est-à-dire je présente les faits, notamment sur le spiritisme, je présente quand même les deux versions que l'on peut avancer, c'est-à-dire celle qui est fausse, c'est-à-dire c'est un phénomène d'autosuggestion, ou alors c'est effectivement une manifestation d'une personne qui vient d'un monde intermédiaire. Je présente les deux aspects.
Est-ce qu'on peut pas expliquer cette espèce d'engouement, notamment pour le spiritisme, par le fait que c'est vrai, c'est naturel, c'est ce qui est expliqué, d'ailleurs, le succès des sœurs Fox quand elles sont venues en Europe, et quand on leur dit on peut communiquer avec l'au-delà, avec les esprits, avec les morts, évidemment on se dit tiens, on peut communiquer avec des parents décédés. C'est peut-être aussi ça qui explique ce
succès. Je crois que de toute façon le phénomène est vieux et vieux comme le monde, hein. Les Grecs en parlent, Platon y en parle à plusieurs reprises, on retrouve des textes faisant référence aux fantômes également même dans la Bible et dans les textes juifs anciens, même dans les textes araméens. Donc vous voyez, c'est un phénomène, je dirais, qui appartenait pratiquement au rationnel à cette époque-là.
Et même à l'époque, vous avez cité Froissart au Moyen-Âge quand il va...
Absolument, oui, oui, au Moyen-Âge, bien entendu, parce qu'il est avec les châteaux forts.
Mais enfin, à l'époque, je ne sais pas si les fantômes avaient des blouses blanches, en fait...
Ah ben ça, je dirais que là, c'est l'imagerie d'Épinal que l'on a du fantôme, qui est hérité de la période romantique du 19e siècle. Mais si on se fonde sur des écrits plus sérieux, ce sont généralement des êtres invisibles.
Enfin bref, s'ils existent, c'est pas sous cette forme qu'on les voit.
Voilà, absolument. Non, je parlais justement d'imagerie d'Épinal, donc effectivement, on est très éloigné, là, je dirais, de la réalité surnaturelle, entre guillemets.
Écoutez, merci Dominique Lormier pour cette demi-heure passée avec des fantômes. J'y crois pas beaucoup plus qu'au début de l'émission, je vous le dis tout de suite, mais enfin, vous en parlez assez bien, et puis alors vous écrivez aussi, vous avez écrit, je rappelle, donc ce livre qui s'appelle Le Grand Livre des Fantômes. C'est plutôt des histoires, hein, mises bout à bout, des histoires de fantômes ou d'apparitions, hein, je suis encore...
Il y a également un chapitre qui a été fondé sur une enquête menée par des chercheurs américains, des scientifiques.
Et un livre donc qui a été publié aux éditions Trajectoire. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont l'un, vous étiez venu nous en parler, sur Rommel, la fin d'un mythe, qui a été publié aux éditions du Cherche Midi. À lire également Le Monde des Fées dans l'Occident médiéval de Laurence Harff-Lankner, publié chez Hachette Littérature, et Superstitions et croyances des pays de France de Marie-Charlotte Delmas, publié aux éditions du Chêne. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Casper de Brad Silberling, et puis les autres d'Alejandro Amenábar. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Claire Levasseur, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Programme de la semaine prochaine, lundi, Chateaubriand avec Marc Fumaroli, mardi, le naufrage de la Méduse, mercredi 1er octobre, alors que le gouvernement annoncera un plan en faveur des personnes âgées, une histoire de la vieillesse, jeudi, Mahomet, et enfin, vendredi, l'origine des langues. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, il est 14h30, vous êtes sur France Inter, et vous avez rendez-vous avec Chris.
Merci Patrice Gélinet, vous savez que cet instant...